Don't let the now destroy the forever.
Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé, ainsi que nos coups de cœur du moment. Aujourd'hui, un épisode en tête-à-tête avec l'une des premières voix du podcast, mais que vous avez pu redécouvrir récemment dans les épisodes sur L'Amour Ouf et The Substance. Lorsqu'elle n'est pas derrière le micro de Ce n'est que du cinéma, elle est journaliste cinéma sur la chaîne de radio-télévision bruxelloise BX1. Comment ça va, Jess ?
Mais salut Martin, ça va très bien et toi? Je suis très content d'être là.
Ben oui, est-ce que toutes les courses de Noël ont bien été faites?
Mais écoute, toutes les courses de Noël ont bien été faites, presque toutes. Et je suis ravie d'être en tête à tête, comme tu dis, avec toi pour discuter. On a un beau programme aujourd'hui.
Ouais, on a du très très lourd. On voulait pas abandonner les auditeurs pour toutes ces sorties de fin d'année. Donc cette semaine, évidemment, on vous parlera du nouveau film de Francis Ford Coppola qui avait été présenté au Festival de Cannes 2024, Mégalopolis. Tout un programme. Ensuite, nous irons du côté du Vatican pour aller voir s'il y a de la fumée blanche hein, dans ce nouveau thriller de Edward Berger, Conclave. Et comme cette fin d'année est chargée en cinéma, on a décidé de faire une troisième sortie exceptionnellement, le dernier film de Robert Zemeckis, qui réunit 30 ans après une partie de l'équipe hein, de Forrest Gump pour nous parler du temps qui passe. Et ça s'appelle Here. Et tout ça sans oublier nos coups de cœur de la semaine. Est-ce que t'es prête?
Je suis prête.
Go. Now. From visionary writer and director Francis Ford Coppola comes an event nothing can prepare you for.
Imagine today's society as a branch of civilization about to reach a dead end. Is this way we're living the only one that's available to us?
Mégalopolis, pour le petit pitch. Mégalopolis est une fable romaine dans une Amérique moderne, imaginaire, en pleine décadence. La ville de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catilina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archi-conservateur Franklin Cicero. Le premier rêve d'un avenir utopique, idéal, alors que le second reste très attaché à un statu quo régressif, protecteur de la cupidité, des privilèges et des milices privées. Alors film avec Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, un petit coucou de Dustin Hoffman qui est venu chercher son chèque et de Shia LaBeouf. Qu'est-ce qu'on a pensé très rapidement d'abord, toi, de ce Mégalopolis qu'on attendait?
Oui, presque 40 ans je pense qu'on l'attendait, si j'ai bien suivi. Je crois que Francis Ford Coppola bosse sur ce film, enfin il l'a en tête depuis presque 40 ans. Eh bien écoute, je dois admettre que voir ce film, c'est clairement une expérience assez inédite, je dirais. Il y a plein de choses dans ce film, mais personnellement je ne suis pas sûre d'avoir pleinement apprécié cette expérience de cinéma. Pour moi c'était trop de concepts, trop de trucs, il y a beaucoup trop de trucs dans ce film. Je l'ai vu qu'une fois, je dois peut-être le revoir une deuxième fois, mais voilà, je dirais que je n'ai pas retiré vraiment beaucoup de positifs de cette expérience de cinéma en ce qui me concerne.
Ben ouais.
Pour le dire poliment.
Pareil, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu mégalo, too much. Il y a trop de choses, il y a des bonnes idées, je vois que je comprends que c'est un petit film testament, on sent qu'il veut parler du temps, avec le super pouvoir du temps qui peut s'arrêter, on sent qu'il a envie lui peut-être de pouvoir arrêter le temps.
Oui, à 85 ans, il a envie d'arrêter le temps.
Je pense qu'il a, comme tout le monde, peut-être à cet âge-là, mais c'est vrai que c'est un énorme boulot, c'est dense, c'est épais. Le mot qui m'est venu en sortant du cinéma, c'est épais.
c'est
pas souvent que je dis ça en sortant d'un film.
C'est vrai, il y a beaucoup de couches.
C'est épais, quoi. Oui. Bon, mais du coup, un peu plus en détail, qu'est-ce qu'on a pensé du coup de ce film? T'attendais quoi de ce film? Sachant que, si je ne me trompe pas, il a eu la Palme d'Or, mais c'était aussi il y a 40-50 ans.
Oui.
C'était en 74 avec Apocalypse Now en 79.
Et aussi pour Conversation secrète, quelques années avant aussi. Il a eu deux Palmes d'Or.
C'est ça.
Il a eu deux Palmes d'Or. Donc c'était un retour assez attendu, mais effectivement, à la sortie du Festival de Cannes. Je ne suis pas moi sortie du Festival de Cannes, mais les critiques du Festival de Cannes étaient un peu mitigées, donc je n'étais pas non plus super impatiente de le voir. Et c'est vrai que lors de la vision, tu l'as bien expliqué, effectivement, on a d'un côté Adam Driver qui est un architecte qui a des pouvoirs de celui d'arrêter le temps, c'est un peu un architecte magicien, et sa vision s'oppose à celle d'un homme politique, son rival, qui est donc Cicero. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, effectivement, Francis Ford Coppola veut parler de plein de choses, mais je crois qu'il veut parler de trop de choses, et du coup il se prend un peu un égo trip avec ce film. Je trouve que c'est louable de voir parler plein de choses, mais d'un côté il met dans ce film, il parle du temps, il parle du passé, du futur, c'est politique, il y a aussi un aspect social dans le film, c'est aussi deux familles qui s'affrontent, enfin il y a du fascisme aussi un peu à la fin du film.
Oh, il y a une allusion à Trump qui est hyper claire.
Oui, hein, voilà, il y a une grosse allusion à Trump, pas du tout.
Il y a carrément la casquette rouge qui apparaît à un moment donné, on est clair.
C'est ça, exactement. Et effectivement, il y a ce côté, ça se passe dans un New York dystopique avec des airs d'Empire romain, décadent. C'est, comme tu l'as dit, une espèce de fable rétro-futuriste. Donc sur papier, pourquoi pas, mais en fait, clairement, il y a trop de trucs dedans. Et donc moi, j'ai trouvé ça très indigeste dès le début. Il y a trop de personnages aussi. En fait, je trouve que dès le début, le problème que moi j'ai eu personnellement, c'est que j'ai pas accroché à l'univers. Je me dis, ok, il y a trop de trucs, trop de personnages, trop de choses qui sont en centre-choc. Les personnages sont pas travaillés, pas trop approfondis, et ils sont un peu trop nombreux. Et très vite, en fait, le scénario, moi, m'a un peu perdu. Je sais pas ce que toi t'en penses, c'est que tu vois qu'il veut parler plein de choses, il y a trop de concepts qui se sont développés, d'autres sont pas développés et sont laissés sur le côté. Du coup, toi tu l'as dit, film épais, moi je trouvais film indigeste et accessoirement un petit peu trop long aussi.
Ouais, 2h40, quelque chose
ouais, comme ça. Voilà, c'est ça. Donc je sais pas, moi en tout cas, moi personnellement, c'était une expérience que j'ai pas trop appréciée, j'ai pas du tout apprécié cette expérience de cinéma. Après, j'ai cru voir quelques critiques de gens qui disaient que le film était visionnaire, que c'était un film visionnaire en avance sur son temps. Alors peut-être que dans 20 ans, on dirait que ce film est visionnaire, mais moi personnellement, en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt laborieux à regarder. Je sais pas comment toi tu l'as vécu.
Ouais, un peu pareil. Franchement, il y a beaucoup de choses dans le film, notamment quelque chose qu'on peut dire sans spoiler parce que c'est dans le titre et puis ça arrive très tôt. C'est un petit peu de science-fiction dans ce monde où il y a l'invention du mégalon, qui est une espèce de nouveau métal un peu qui peut tout faire, qui peut tout construire, qui peut tout réparer, une espèce de truc un peu divin. Et effectivement, le héros du film, en tout cas le protagoniste un peu génial architecte Adam Driver, qui a un rêve du coup de cette utopie, je pense qu'en fait, le film essaye simplement d'expliquer, voilà, le monde va mal, la société est décadente, les États-Unis ça part en ouille, comme dirait Nora, et moi je suis le gars qui a une vision, sauf que tu sens quand même que ça sent un peu le sapin, sa vision, quoi. Hein,
oui.
C'est que c'est un truc un peu complètement mégalo, c'est dans le titre aussi. Et donc j'étais un peu frustré parce que malgré tout, il a quand même des pouvoirs, c'est la toute première scène du film, on voit qu'il peut arrêter le temps. Truc super drôle, à un moment donné, en arrière-plan, il y a une cover de Time Magazine, évidemment, c'est écrit Tempus Magazine. J'avais le gros Tempus derrière.
Tu as observé que moi, c'est vrai.
Et non, et donc, il y a tout ça, ça part pas mal, on se dit, bon, ok, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et puis, bon, il y a cette scène très rapidement entre tous les puissants de la société, donc le secteur des banques, hein, qui est vraiment un pilier interprété, c'est le capitalisme incarné dans une personne, avec une famille complètement décadente en dessous. Tu as le maire, qui est complètement, comme on a dit, réactionnaire. Et puis, tu as lui qui vient un peu. Qui est un peu, j'ai l'impression, le Elon Musk de l'histoire, qui est un peu fou avec plein de moyens aussi et qui veut un peu perturber le truc, sauf qu'il part en monologue de Hamlet, tu vois, de fou, et tu te dis, ok, film. Donc tout de suite, je trouve que le film te montre déjà, t'écrase un peu par son savoir déjà. Déjà, on te pose Catilina, qui sait ce que c'est Catilina à ce moment-là. Cicéron, bon, on voit un peu plus, mais bon, de là à le placer, à savoir tout ce qu'il a fait. Puis il y a du Shakespeare, il y a des citations qui partent dans tous les sens, il y a des références à Metropolis, enfin, un truc d'il y a 100 ans, quoi. Donc d'un côté, visionnaire peut-être, ou peut-être ça fait 100 ans qu'on avait déjà fait ce film,
oui,
en
c'est
fait.
Ça.
C'est peut-être,
exactement.
Je sais pas, quoi. Donc.
Je trouvais effectivement qu'il y a un petit peu ce côté où il nous balance un peu dans la tronche plein de choses avec ce film, dont des très très vieilles références, et qu'il y a un peu ce côté, tiens, est-ce que je prends pas un peu le spectateur pour un débile s'il a pas compris mon film? Voilà, je sais pas si c'était ça qui était voulu, mais vu que moi j'ai pas tout compris à ce film, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il essaie de me dire, tiens, voilà, je balance plein de choses dans mon film super intelligente, et ceux qui comprennent pas, tant pis pour eux. Voilà, je sais pas si c'était ça l'intention, mais en tout cas, moi j'ai pas tout compris à ce film.
Et donc,
en tout cas.
Oui, donc c'est un petit peu ça, quoi. C'est compliqué. Franchement, je suis sorti de là, je pense comme toi, un peu circonspect, en mode jeu. Objectivement, feeling ressenti, pas passé un bon moment.
Oui.
En même temps, il n'y a rien de honteux dans le film, les acteurs sont bons, il y a des scènes quand même un peu intéressantes parfois, mais le propos général, je sais pas si tu avais une scène en particulier que tu as vraiment aimé ou un moment où tu as été un peu dans le film.
En vrai, pas spécialement. J'ai pas, il n'y a pas une scène qui m'a marqué plus qu'une autre. Je trouve justement qu'il y a certaines choses qu'il aborde, certaines scènes, par exemple les scènes où les statues s'auto. Se décapitent, mais c'est pas ça.
Elles se détruisent.
Elles tombent en ruine elles-mêmes. Elles tombent de leur
pied. C'est ma scène préférée, j'allais te le dire.
C'est vrai ?
Ouais, j'ai adoré.
Elles tombent de leur piédestal, mais. Donc c'est intéressant, je trouve, comme concept, mais après on passe à autre chose. Donc
ouais.
C'est ça qui m'a perturbé en fait dans ce film.
C'est littéralement ma scène préférée,
c'est
une petite balade qu'ils font dans l'obscurité un peu à l'arrière de la ville et ils vont dans les vieilles rues et alors là c'est la catastrophe et tu vois vraiment métaphoriquement la statue de la loi qui s'effondre, la statue de la justice qui s'effondre sous son propre poids et on comprend tout ça. Puis alors on voit aussi des scènes un peu plus où des flics continuent de tabasser des personnes afro, etc. On voit vraiment dans un monde où
la violence policière est abordée aussi.
Exactement, voilà. En fait, il y a plein de choses super intéressantes, mais tu dis, Papi Coppola, qu'est-ce que t'as fait? Tu sais qu'il a vendu la moitié de son vignoble pour financer son film. Hein. C'est une vraie histoire. C'est le seul gars qui paye de sa poche pour faire ses films.
C'est pas la première fois qu'il se ruine à moitié ou voire complètement pour faire un film. Ouais. Donc je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il aurait peut-être dû retirer certaines choses de son film, pas vouloir parler de tout. Je sais pas visuellement, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce film? Je suis un peu mitigée moi, sur l'esthétique du film. Je trouve que c'était pas forcément très beau par moments.
Ouais, et je crois que c'est dû au fait que c'est un film qui a été fait hybride au niveau des effets spéciaux. Donc à la base, il voulait partir sur la nouvelle technologie, tu sais, qu'on utilise dans The Mandalorian et tout ça. C'est une espèce de dôme bulle LED dans lequel tu peux projeter tout et même changer la lumière. Enfin, voilà, tu peux vraiment faire. C'est vraiment une technologie révolutionnaire et tu vois que toutes les séries Star Wars modernes utilisent ça, mais de plus en plus de films. Et en fait, à un moment donné, Papy a pété un câble, il a viré tous les techniciens du truc parce que ça lui allait pas et il est revenu à des fonds verts plus traditionnels. Et donc, je crois qu'il y a des scènes qui ont quand même dû être tournées d'une façon et pas de l'autre. Donc, je crois que, ouais, effectivement, au niveau de la pâte graphique, c'est. Il y a quelques jolis plans, mais globalement, on sent que ça fait toc. Mais
oui,
après,
il y a des moments où c'était un peu, je vais pas dire cheap, parce que mais je trouve qu'il y a des moments où j'ai l'impression d'être dans une pièce de théâtre un peu cheap et qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait un peu à l'œil. Je suis d'accord avec toi. Aussi, il y a un petit truc qui m'a un petit peu perturbé aussi en termes de personnages féminins. C'est marrant. Je comprends en fait que ces personnages, je crois comprendre, ce sont un peu des archétypes vu qu'on est un peu dans une fable. Il le dit lui-même, une espèce de fable rétro-futuriste. Je comprends que ces personnages sont pas forcément tous bien travaillés ou très approfondis ou trop caricaturaux. Parce que c'est un peu des archétypes, hein. Chia LeBeuf, cette espèce de
populiste, de politicien.
Mais je trouve que les personnages des femmes, elles sont soit très très lisses, comme ça, un peu déceintes, ou alors c'est des espèces de femmes vénales, je ne vais pas dire des prostituées, mais voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment deux extrêmes comme ça, et donc ça m'a un peu gênée. J'imagine que c'était voulu aussi, mais voilà, ça m'a un peu dérangée.
Oui, clair, les rôles des femmes, c'est une critique que j'ai entendue plusieurs fois aussi en me renseignant sur le film. C'est vrai que t'as soit sa femme décédée, c'est une des toutes premières scènes, on l'apprend, genre qui est. La pureté, l'amour, le truc, machin. C'est soit une femme à marier qui est absolument pure, sinon les autres, c'est des... Et t'es un peu genre... Francis, nous sommes en 2024. Je sais que t'as commencé à travailler en 74 sur ce film, mais quand même, genre Francis.
Mais peut-être que c'est ça qu'il faut retirer de tout ça. C'est effectivement ce film sur lequel il travaille depuis 40 ans. Est-ce que c'était pas un peu trop tard? Est-ce que ce film s'en fait un peu la poussière? Et est-ce que c'est pas un peu... Il se veut un peu futuriste peut-être avec ce film, mais en fait finalement il est juste complètement dépassé.
Clairement.
J'ai l'impression.
Bon, je vais quand même te poser la question. Si tu devais sauver un aspect, ça peut être un acteur, une scène, quelque chose dans ce film...
C'est une bonne question. Les acteurs font quand même ce qu'ils peuvent, je trouve. On peut quand même dire que le casting s'en sort pas mal avec ce qu'on leur a mis sous la dent. C'est une bonne question. Adam Driver, un architecte qui a des pouvoirs. J'aime bien le côté arrêter le temps. C'est un truc qui m'a plu, en fait. Voilà, ce personnage qui peut arrêter le temps. Il n'a peut-être pas assez approfondi la chose. Il aurait peut-être pu aller plus loin avec ce pouvoir. Mais voilà, ça m'a plu.
Bah ouais, moi, c'est Adam Driver.
Ah, c'est Adam Driver.
La seule chose à sauver, c'est que je trouve qu'il est. Enfin, c'est pas compliqué. S'il y a Adam Driver à l'affiche, je vais voir. Même si c'est mauvais, quoi. C'est juste. Enfin, pour le moment, il n'y a pas vraiment de mauvais film. Alors. Un unpopular opinion, j'avais détesté Annette. Je sais, je vais me faire taper par les cinéphiles. Annette ne m'a jamais touché. Je crois que c'est aussi parce que j'ai quelque chose contre Marion Cotillard et les poupées qui font peur.
Je comprends.
J'ai un truc sur Chucky, tout ça, les poupées. Mais Annette, ça ne marche pas pour moi. Je sais que j'ai une auditrice, une amie, Sarah, qui écoute ça, qui m'assassinerait. Je crois que c'était son film de l'année, de cette année-là. Donc c'est le seul film où Adam Driver, j'ai du mal, il cabotine un peu. Sinon, moi, j'adore ce qu'il fait. Donc là, ça me sauve un peu dans le film. J'aime bien voir Giancarlo Esposito. Dustin Hoffman, comme je l'ai dit, il est venu faire son chèque. Il a deux scènes. Il a dû être coupé au montage. C'est pas possible.
Oui, ça aussi, c'est bizarre.
Il est venu servir les cafés sur le studio. sur le plan.
C'est ça aussi qui est bizarre dans ce film. C'est qu'effectivement, il y a des acteurs qui viennent, ils passent et puis ils s'en vont. Ils ne croient pas ce qu'ils ont fait là.
C'est hyper bizarre. Enfin voilà, donc on vous recommande quand même très très moyennement hein, ce Mégalopolis. Il y a probablement mieux à voir en cette fin d'année. N'hésitez pas à écouter Ce n'est que du cinéma pour savoir tout ce qui est sorti au mois de décembre. Bon, bah, si c'est tout en tout cas pour nous, on va passer quand même à un film qui nous a plus convaincus pour le coup. On va vous parler de Conclave.
The Pope is dead. The throne is vacant.
What happened?
They say a heart attack.
You know how rumor spreads and 1.25 billion souls watching.
Well, Cardinal Lawrence.
It seems the responsibility for the conclave falls upon you.
conclave. Pour le petit pitch, quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur. Mais alors, la machination politique au sein du Vatican s'intensifie. Il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret, qu'il doit découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Voilà. Ce film d'Edward Berger, hein, donc qu'on avait découvert pour le coup personnellement lors de son film À l'Ouest, rien de nouveau, un film sur la Première Guerre mondiale qui avait surpris les Oscars aussi, qui avait été, il a gagné un Oscar d'ailleurs, il a été nommé à plein de prix. Donc vraiment, ce Edward Berger, moi depuis lors je le suivais, d'ailleurs je crois que c'est dans l'épisode 3 de Ce n'est que du cinéma, si ça vous intéresse, donc avec Ralph Fiennes dans le rôle principal, Stanley Tucci, Isabella Rossellini, qui je trouve n'a pas assez à jouer dans le film, mais on y reviendra. Qu'est-ce que toi t'as pensé de ce conclave?
Écoute, je trouve dans l'ensemble que j'ai passé un bon moment en regardant Conclave. Et c'est vrai que, petite comparaison, effectivement, Edward Berger, on lui doit, tu l'as dit, À l'Ouest, rien de nouveau, qui nous emmenait, qui était un film de guerre. Et j'ai l'impression qu'ici, avec Conclave, c'est aussi un film de guerre, mais une autre guerre, un autre type de guerre.
C'est les papes qui font la guerre.
Voilà,
c'est les cardinaux.
C'est des vieux monsieur ridés, ils font la guerre. Dans leur soutane.
J'ai des images bizarres, oui, on va pas faire toutes les blagues. C'est une histoire de bure.
C'est ça. C'est une sorte de guerre entre guillemets en huis clos. Voilà. Et donc on nous emmène. Moi j'aime bien ce côté un peu. On nous emmène dans les coulisses du Vatican et on nous emmène découvrir un peu l'élection d'un nouveau pape. Bon, il paraît que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe en vrai.
Voilà. C'est parce qu'on a aucune info.
C'est probablement parce qu'on a aucune info.
En fait, il y a des éléments qui ont l'air vrais, mais ça qu'on ne sait pas. Et c'est ce qu'il disait. J'ai fait au plus proche de ce qui est possible. Mais par exemple, ils n'ont pas pu filmer évidemment au Vatican puisque c'est fermé.
Tout est fait en studio.
Et quand même à Rome. Mais c'est vrai qu'ils savent pas, donc ils imaginent, ils savent qu'on sait qu'il y a 3 votes par jour jusqu'à ce que le vote atterrisse, mais après ce qui se passe dans les couloirs, ils savent pas, et ça c'est super fascinant quoi.
C'est ça qui est
presque un thriller en fait.
Et effectivement, le film se transforme très vite en thriller, donc à ce côté, on sait que c'est une histoire fictive, mais moi je suis rentré dedans comme si c'était vrai. Donc non, je trouve que le film en fait est direct, il est clair, il nous tient en haleine jusqu'au bout. Je trouve que les enjeux marchent très bien, donc moi je trouve que je dirais pas que j'étais genre. Sous tension pendant 2 heures de film en mode waouh, gros thriller de ouf, non, mais par contre je trouve que le film tient complètement la route, l'intrigue tient la route et j'ai passé un bon moment en mode petit kiff quoi. Et c'est sûr que un des trucs qui m'a plu, c'est clairement plus que l'aspect rebondissement et intrigue, c'est plutôt les personnages des cardinaux en eux-mêmes. Je trouve ils sont assez riches, je trouve, les personnages incarnés, non seulement par Ralph Fiennes, donc qui est celui qui supervise un petit peu tout ça et qui en plus enquête pour découvrir un petit peu certaines choses qui ont été cachées. On va en reparler.
C'est l'un des cardinaux, mais lui n'a aucune prétention, c'est-à-dire ouais. Il veut vraiment pas y arriver. D'ailleurs, les autres le croient presque pas. C'est bon, on sait, on connaît les gens trop modestes, mais qui en politique, si t'es là, c'est que tu le veux. C'est que quand tu te rases le matin, c'est que tu le veux quand même. Et il dit non, vraiment, je ne veux pas, ne votez pas pour moi, parce qu'il y a quelques votes qui vont pour lui au début. Ne votez pas, ne votez pas, ne votez pas. Du coup, il se transforme un peu comme enquêteur malgré lui, à essayer. Parce que par contre, disons que son compas moral a l'air d'être le seul un petit peu droit.
Droit dans ses bottes.
Et
ouais.
Donc, il essaye vraiment de. Enfin, pour lui, le prochain pape doit être un être humain. Irréprochable, en tout cas autant qu'un être humain puisse l'être, et donc il essaye vraiment de dégoupiller et de carrément de savonner la planche à ceux qui sont coupables d'avoir péché, ciné, comme on dit en anglais.
Et aussi d'essayer d'éclaircir un petit peu
la mort,
circonstances de la mort du pape qui est un peu flou, effectivement.
Oui, c'est ça.
Donc c'est ça, moi, qui m'a plu, c'est effectivement ces personnages-là, des cardinaux, ils se posent, on les voit comme se poser des questions, pas que sur leur foi, mais ils doutent parfois, ils savent un peu, ils se posent des questions morales sur leur responsabilité aussi, s'ils doivent devenir pape. Aussi, il y a la question du, voilà, certains qui défendent, enfin pas qui défendent le mariage homo, j'exagère un petit peu, mais il y a vraiment ces questions sociétales, en tout cas, qui se pose.
Deux idéologies un petit peu entre un candidat. À un moment donné, il y a 2 candidats qui vont vraiment se détacher. Un qui est beaucoup plus conservateur, l'autre qui est plus « ouais, moi je suis prêt à tout ce que lui dit, je fais l'inverse
».
C'est vrai que c'est assez drôle, ça, c'est drôle.
On les rend humains et je trouve ça chouette en tout cas. Ils sont bien.
Et t'as raison, pour le coup du cardinal, ça a vraiment été quelque chose, quand tu regardes les interviews d'Edward Berger, il dit « bon, c'est un huis clos, on sait pas vraiment ce qui s'y passe, et comme il y a énormément de votes, et qui voulait quand même rendre ça juste, donc il doit montrer toutes ces scènes de vote. Il a vraiment essayé de faire des castings de cardinaux un petit peu, voilà, qu'on puisse vraiment comprendre la personnalité, que ça sorte un peu du lot, parce que sinon, il disait, ça va être ennuyant à périr de voir tous ces vieux se déplacer pour aller voter avec la petite incantation en latin avant de mettre le truc dans l'urne. Il s'est dit, ça va être compliqué.
C'est vrai qu'il y a un côté répétitif un peu.
Et donc, il a dû, voilà, et notamment, il y a une scène que je trouve super belle, c'est à un moment donné, il y en a un qui tombe en disgrâce, et alors il est filmé tout seul, assis sur les bancs. Et oui. Ça dure assez longtemps, et ça, c'est pas a priori quelque chose qui se passe, parce que cette salle est toujours occupée par tous, mais jamais par quelqu'un tout seul. Et il dit, mais c'était important de le faire pour montrer son isolement, même s'il est désolé, là, là, on vous raconte pas tout. Mais moi, j'étais vraiment bien convaincu par ce conclave, mais je crois que je suis un peu biaisé par, à nouveau, Ralph Fiennes, qui est un acteur qui m'emporte vraiment beaucoup, mm-hmm. qui m'enthousiasmait pas tellement, genre dans Le Patient anglais, des choses comme ça, à nouveau, je vais me prendre des ennemis, mais récemment, vraiment, il m'a vraiment embarqué. Je sais que j'étais particulièrement ambiancé par le film de Manu, qui m'avait vraiment plu. Et je trouve que depuis qu'il a, depuis même, c'est quoi, c'était il y a 10 ans, hein, le film de Wes Anderson, Budapest Hotel aussi, où il joue un rôle vraiment bouleversant, enfin vraiment fun aussi. J'aime bien le Ralph Fiennes vieux, vieillissant en tout cas, qui joue une espèce de sage un peu, en fait, de quelqu'un d'assez qui est toujours dans l'essentiel, quoi. Tu vois, dans de Manu, c'est ça, quoi. C'est le respect de la cuisine, de la chose bien faite, etc. Et je trouve qu'il est un peu sur ce truc-là.
C'est le correcteur. Il fait des choix
avec une élégance tout à fait britique qu'on aime bien, quoi. Tu vois,
il fait des choix de rôle vraiment, vraiment très intéressants et il le fait très bien, je trouve, effectivement, depuis plusieurs années. C'est vrai.
Mais c'est vrai que sinon, il n'y a pas grand-chose à dire trop sur ce film. Il faut le regarder. C'est un chouette thriller, 1h40.
Et donc, toi, ce qui fait le film pour toi, c'est Ralph Fiennes, ou tu penses qu'il y a aussi autre chose qui fait ça?
C'est hyper bien réalisé. Mmh. Je trouve que ce qui est. Il y a quelque chose que j'aime bien, c'est que ça n'en fait pas des caisses, mais ça montre quand même que pour des gens qui sont dans l'église, etc., et qui ont des vies soi-disant ascétiques, tu vois le système des cuisines, tu vois tout le luxe qu'il y a autour, tu vois que c'est quand même des gens qui sont très privilégiés malgré tout, que c'est la sphère de pouvoir presque par excellence, hein, puisque c'est la seule qui se revendique d'être de droit divin directement. Et voilà, moi je suis pas vraiment très sensible à la religion, mais je trouve que c'était intéressant de le montrer. Il y a plusieurs environnements où c'était filmé. Je trouve que voilà, Edward Berger, il filme vraiment très très bien. Moi j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé son À l'Ouest rien de nouveau. Et je trouve qu'il le dit aussi en interview, je trouve que ça se sentait, il voulait montrer que les murs ont des oreilles. Je trouve que c'est filmé comme ça, il y a des longs couloirs, il y a eu 2-3 scènes où ils sont en train de parler, tout d'un coup ils entendent un petit cliquetis, parce que tout est vieux, c'est des vieilles chapelles, Sixtine, machin, donc tu entends un petit clic, une petite... Alors, tout de suite ils s'alertent et ils savent que tous les murs écoutent.
Il y a un travail sur le son, je trouve vraiment bien, effectivement, autant que ce soit dans le bruit des enveloppes, ou quand ils sont en train d'écrire, enfin ils sont en train de noter le nom du candidat qu'ils voudraient, effectivement les bruits de couloirs et tout, il y a un travail sur le son qui est assez bien, qui est assez maîtrisé dans le film, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et par contre, non, c'est vrai que si je dois dire un petit défaut, mais je crois qu'effectivement le film vient de sortir et avant de sortir chez nous, il a cartonné, enfin il y a eu des critiques très positives aux États-Unis, donc on me l'a peut-être un peu trop hypé. Je m'attendais vraiment à un truc super thriller religieux politique incroyable, donc c'est effectivement un thriller politique, effectivement, avec des rebondissements assez réguliers qui fait qu'on est tenu en haleine. Après, je dirais que voilà, peut-être que j'ai été un petit peu trop hypé, du coup je m'attendais vraiment à un truc incroyable. Je trouve que le film manquait un petit peu, voilà, s'il faut vraiment trouver une petite critique, il manquait pour moi d'un petit souffle un petit peu plus politique, ou vraiment un vrai souffle dramatique pour que je me dise waouh, ça c'est vraiment un film avec un vrai propos. Et je trouve que par moments certains trucs sont un petit peu inutiles. C'est qu'à un moment donné, il y a quand même des attentats qui s'invitent un petit peu dans l'intrigue, et pourquoi pas, mais voilà, je me suis demandé, tiens, pourquoi?
Mais pourquoi?
Pourquoi, voilà.
Pourquoi et, pas, mais pourquoi, et, pourquoi
voilà, je m'exprime très bien en français, je suis critique cinéma. Pourquoi, mais pourquoi? Et aussi le petit twist final que je ne vais pas spoiler, au moment où je l'ai vu, parce qu'il y a vraiment un twist final quand un pape est choisi, je me suis dit, ah ouais, cool comme proposition. Puis le lendemain, en ayant passé la nuit dessus, j'étais un peu moins certaine, un petit peu moins convaincue. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'était pas un peu excessif, voilà, un petit peu gratuit, ce twist, même si je comprends un peu l'idée, une espèce de patriarcat, on dénonce pas le patriarcat, j'ai l'impression, d'une certaine manière, à la fin du film. Mais voilà, j'ai trouvé de temps en temps, si je dois vraiment trouver un petit défaut, c'était un petit twist, c'était un peu trop choc, un peu trop gratuit. Mais voilà, c'était un peu dur. Je sais pas ce que t'en penses.
Non, mais bah, écoute, pour te dénoncer tout de suite auprès des auditeurs, tu as mis la note de 6,5 sur 10 sur tes stories. Suivez Jess sur les stories pour voir en avant-première ce qu'elle pense des films. Comme ça, si elle dit pas la même chose au micro, vous pourrez la contacter pour dire « Tu nous as menti !»
C'est non, pas une mauvaise note, 6,5 sur 10.
Bah, comme je disais, ça dépend si tu considères comme si t'es un prof d'unif qui fait des cotes à partir de 20 ou à partir de 16 sur 20. Donc ça dépend. 6,5 pour moi, c'est... Ouais, ça passe la moyenne, mais c'est pas une grande réussite, quoi.
C'est vrai que j'étais un peu dur. Peut-être parce que j'étais trop hypé sur le film et que je m'attendais vraiment à un truc de dingue, parce que j'adore aussi le réalisateur. Mais voilà, mais je suis peut-être un peu difficile. En soi, c'est un film qui est tout à fait agréable à regarder, je le recommande.
Mais en fait, il a été nommé à plein de choses, donc enfin, je crois qu'il va, peut-être, à mon avis, il va embarquer quelques récompenses au mois de mars lors des Oscars.
Il est bien parti pour,
mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, à aucun moment ça prend des proportions épiques où à aucun moment, en tout cas, c'est pas un film qui est censé être épique, mais à aucun moment, il y a ce rythme qui s'emballe. C'est peut-être un peu trop académique, un peu trop maîtrisé. Tout est très bien, tout est super, vraiment. Puis ça manque un peu de palpitant, peut-être. Moi, j'ai ressenti aussi un peu ça, donc... C'est pas le film de l'année, mais c'est un très très chouette film. Et surtout, c'est un sujet qu'on voit pas souvent. Enfin,
j'ai
commencé à créer un amour pour ces films-là avec le film Les Deux Papes qui était sorti pendant le Covid, souviens-toi.
Avec Anthony Hopkins et Jonathan Pryce,
qui est vraiment très très bien. Et il y a de plus en plus de films. Enfin, le Vatican s'ouvre un petit peu, ou en tout cas, les réalisateurs essayent de forcer les portes du Vatican. Je crois que c'est plutôt comme ça. Et je trouve que c'est toujours assez bien fait, quoi. Donc voilà. En tout cas, Les Deux Papes, moi je recommande. C'était vraiment une belle surprise du Covid. Bon, ben en tout cas, sans plus attendre, on va passer à la troisième sortie. Le film de Papi Zemeckis du coup qui s'appelle Here.
Right here is where we want to be.
You know, if you like, you could spend the rest of the night here.
Alors Here, je vous lis donc le petit pitch de Allociné. Donc toute l'équipe de Forrest Gump revient au cinéma et vous transporte dans un voyage unique à travers le temps. L'histoire de famille dont les peines, les joies et les moments de doute se font écho à travers les générations. Donc film de Robert Zemeckis, avec Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany. Et voilà, et aussi, à dire c'est important, donc avec le scénariste Eric Ross, qui était le scénariste aussi de Forrest Gump. Donc c'est vrai que c'est quand même quatre des acteurs principaux, en tout cas qui ont confectionné le film Forrest Gump, pile 30 ans après. Ce film Here, dont je vais tout de suite dire... qu'il est remarquable parce qu'il ne bouge pas sa caméra. En fait, c'est le concept, c'est un film un peu à concept. La caméra est posée sur un endroit géographique de ce globe. Et à un moment donné, il y a un appartement qui va être construit, une maison qui va être construite, donc pile devant cette caméra, qui arrive pile dans le salon. Et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas jusqu'à la toute dernière scène du film. C'est un concept. Est-ce que ça t'a convaincu? Qu'est-ce que t'as pensé de ce Here?
Mais tu l'as bien expliqué, effectivement, c'est un film à concept, un petit peu même expérimental, je dirais. Et donc, en soi, sur papier, je trouve que l'idée est intéressante. Il y a vraiment un travail, une thématique autour du temps qui passe, clairement, parce qu'il pose sa caméra et en fait, on va faire non-stop durant tout le film des sauts en fait, dans le temps. Il va autant, à un moment donné, arriver, on va commencer au temps des dinosaures.
À un moment donné, il y a dinosaures qui passent. C'est vrai que techniquement, ils ont dû marcher sur ce mètre carré-là, précis, quoi.
Exactement, vu qu'on est quelque part sur la Terre, il y a dû y avoir à un moment donné des dinosaures, puis on arrive à la préhistoire, enfin, voilà, on va faire vraiment des sauts dans diverses époques, et donc on va croiser plusieurs familles qui auront, ou des personnes, en tout cas des gens qui auront vécu aussi à un moment donné dans cette maison qui sera construite, mais on suit principalement, il faut le dire, une famille américaine classique si je puis dire, et j'ai l'impression qu'il y a un petit côté biographie, j'imagine que Zemeckis s'inspire partiellement de sa propre vie, je ne me suis pas renseigné là-dessus, d'ailleurs peut-être que je m'avance complètement, mais je sens un petit peu qu'il est allé puiser
En tout cas, à nouveau, ce concept à la Forrest Gump, c'est-à-dire d'à travers une vie personnelle de quelqu'un, de retraverser l'histoire de l'Amérique.
Tout à fait.
On voit notamment avec l'invention du fauteuil, là, ça s'appelle le Take It Easy, ou je sais plus comment, ce fameux fauteuil où on peut chiller devant la télé. Je suis en train de bouger devant le micro, je sais pas si c'est au niveau du son, je m'éloigne. Et donc il y a un peu tout ça, il y a la guerre, enfin voilà, on voit un peu toutes les étapes, un peu comme dans Forrest Gump, voilà, donc je crois qu'il y a ça.
À l'échelle beaucoup plus grande là du coup.
Oui, complètement. Voilà.
Mais donc c'est effectivement un film concept qui n'est pas inintéressant, mais je trouve que le problème de ce film, c'est qu'en fait du coup Zemeckis est un petit peu bloqué par son concept. Et donc ça nous empêche d'accéder à une sorte d'émotion. En tout cas j'ai l'impression que... Moi, j'ai pas ressenti grand-chose dans le film parce que, vu qu'on est un peu, il est un peu bloqué par son concept, les quelques scènes qui vont rythmer le film, c'est à chaque fois des moments clés un petit peu de la vie des gens. Donc, entre autres, effectivement, Tom Hanks et Robin Wright qu'on voit évoluer dans leur vie. Mais du coup, ces moments sont un petit peu basiques et un petit peu clichés, je trouve. Ça va être des réunions de famille, ça va être des moments où elle est enceinte. Et donc, c'est un peu le problème que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de scènes très clichés. Je sais pas ce que toi, tu as pensé du film.
Eh ben oui, et j'arrive pas bien à m'expliquer pourquoi, mais j'ai exactement le même ressenti que toi et des personnes à qui j'en ai parlé autour de moi qui ont aussi vu le film, c'est pareil. Genre, l'émotion ne prend pas.
Ouais, voilà.
Alors que, sur papier, il y a tout pour que ça marche. Mais oui, il y a des scènes, il y a tous les moments importants de la vie. À la limite, il y a vraiment que la scène de fin, voilà, où les acteurs ont du coup un certain âge, parce que quand même c'est assez chronologique, même s'il y a des retours dans le temps à plein de moments, globalement il y a une chronologie un petit peu du film, sur cette famille-là en tout cas. À la fin, voilà, la fin me touche un tout petit peu plus, Mais vraiment, il a fallu aller la chercher à la truelle, quoi, l'émotion, quoi. Et pourtant, moi, je suis le premier à pleurer sur la première chanson de Disney, je pars, quoi. Genre, j'ai pleuré 3 fois dans Wicked. Enfin, je suis plutôt un bon public, quoi. Mais... Et ben là, ça n'a pas pris, alors que c'est en plus des acteurs qu'on a connus dans Forrest Gump, film dont on avait parlé aussi dans le podcast et qui nous avait touchés, enfin, qui est autrement plus touchant. Paul Bettany, le rapport entre Tom Hanks et Paul Bettany, ce qui est drôle, parce qu'on n'a pas dit, on va peut-être en parler après, mais il y a tout un système de rajeunissement, évidemment, pour vivre les différentes époques. Et donc, Paul Bettany est censé être le papa de Tom Hanks, ce qui est drôle au niveau de leur génération, ils ont sûrement 25 ans d'écart dans l'autre sens. Ça n'a pas pris la relation père-fils. Pourtant, voilà, moi, a priori, je suis client, les relations très proches, familiales et tout, oui, ça me touche, mais ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi, et je ne sais toujours pas pourquoi. Ça ne marche pas.
Mais je pense que c'est parce qu'il est un peu bloqué par son concept.
Ouais. C'est ce cadre qui ne bouge pas. Quoi.
Ce cadre qui ne bouge pas, et que le fait qu'il s'intéresse à plein de choses différentes, même si c'est une famille qu'on suit, il est un peu obligé de nous montrer des moments clés. Et donc, du coup, c'est chaque fois un peu cliché. On est à Noël en train d'ouvrir les cadeaux. Enfin, il nous faut vraiment juste des petits moments. Genre, il ouvre une fenêtre et on voit la famille, puis on la referme pour passer 10 ans plus tard. Donc, du coup, voilà, je pense qu'il y a un petit problème de concept, entre guillemets. Le concept est bien, mais c'est plutôt l'écriture, je trouve, effectivement, qui l'handicape un petit peu, je trouve. Ouais.
Qu'est-ce que tu as pensé, par contre, de la technologie de rajeunissement, des voix aussi, ils ont travaillé sur tout ça, parce qu'évidemment, Tom Hanks, il a un certain âge, j'ai pas été vérifié, mais on a vu, il a bien là, en septantaine,
oui,
bien
pas
dedans.
Loin.
Donc forcément, dans les scènes où il est jeune, il est vraiment rajeuni, Robin Wright, c'est pareil. Toi, t'as été convaincu par ce rajeunissement-là, on sait que c'est toujours un peu casse-gueule, sans mauvais jeu de mots, faire ça.
Mais c'est vrai que Zemeckis a toujours été un peu intéressé aussi, hein, par tout ce qui est évolution technologique du cinéma, il est assez preneur, effectivement, de tout ça, donc c'est pas surprenant de sa part.
On pense à Roger Rabbit en 92, qui révolutionnait vraiment le style.
Qui mélangeait prise de vue réelle et cartoon.
Mais même Forrest Gump, c'est marrant, on en avait parlé dans l'épisode précédent du podcast. On parle de The Mask qui sort en 94 comme Forrest Gump. Et The Mask est connu pour ses effets absolument 3D, novateurs, Looney Tunes, etc. Et ils sont tous les deux nommés en compétition aux Oscars pour les meilleurs effets. C'est Forrest Gump qui le gagne. Et ça paraît un peu fou, mais en fait, la réalité, c'est que dans Forrest Gump, il y a plein d'effets numériques et d'effets techniques, mais qui sont quasi invisibles.
Oui,
et je crois que c'est ça
pas.
Qui a fait gagner le truc. Il y a notamment la scène où un acteur est censé avoir perdu les jambes au Vietnam, dans Forrest Gump, et il tourne, et il y a un tabouret dans le chemin, et personne ne comprend comment ils ont fait pour enlever ses jambes. Alors que les jambes sont vraiment là dans la vraie vie. À un moment donné, Forrest Gump soulève quelqu'un, et effectivement, c'était pas possible. Donc, ils ont mis tout un système de grue avec une corde qu'ils ont après effacée en post-prod pour qu'il puisse soulever tout en courant un type qui pesait 85 kilos. Il y a plein d'effets comme ça, il y en a plein, qui sont complètement cachés, et c'est pour ça qu'il a gagné les meilleurs effets. Donc, en fait, Robert Zemeckis, il est toujours précurseur des effets.
Oui.
Ça, j'ai pris que 2 exemples, il y en a plein d'autres. Il adore ça. Même là, il a créé une nouvelle caméra juste pour ça, pour faire des très très longues.
Tout à fait, oui, il a créé une nouvelle caméra pour ce film-là.
Tout
oui.
à fait.
C'est
donc,
qu'il faut.
Voilà. Et là, ça marche moins bien, quoi.
Mais oui, je sais pas ce que toi t'en as pensé. Je trouve que en fait, en soi, c'est assez réussi. Le rajeunissement, je trouve que j'ai pu voir d'autres films avant celui-là où c'était un peu gênant. Tu sentais qu'il y avait un truc qui était pas ok dans la tronche du personnage. Là, ils sont bien rajeunis, je trouve, au niveau numérique. Mais après, j'ai quand même été perturbée par ça parce que d'un côté, j'avais quand même l'impression d'entendre justement Tom Hanks âgé de 70 ans. Enfin, âgé.
C'est la voix qui trahit, je pense.
Ouais, je pense c'est la voix. Voilà, ouais. Je sais pas. Donc,
pourtant, ils l'ont un peu rajeuni, mais c'est plus dur apparemment.
Je pense, oui,
maintenant de travailler une voix, de la rajeunir de 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'une image.
Ouais.
Apparemment c'est vraiment une intelligence artificielle de deep learning qui a rajeuni les visages parce que ils lui ont fait apprendre tous les films, toutes les scènes où ils apparaissent, donc ils ont fait manger à cette intelligence artificielle toutes les scènes de Robin Wright, toutes les scènes de Tom Hanks, et ils ont pu créer quelque chose d'extrêmement précis. Et vraiment, moi, j'ai été bluffé par le rajeunissement.
Mm-hmm.
C'est incroyable, ce rajeunissement.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Mais la voix trahit.
Donc t'es d'accord avec moi qu'il y a ce côté avec la voix bizarre.
Dans Toy Story, dans le 4, parce que Toy Story, la voix, c'est Woody, hein, donc c'est Tom Hanks, et ça marchait dans les années 2000. Mais là, maintenant, quand t'entends Toy Story 4, que j'ai revu il n'y a pas très très longtemps, il a la voix de 70 ans, et donc il est genre, un jeune cow-boy fringant, genre, mais je l'entends que c'est un papy qui me raconte des histoires, je le sens pas prêt à dégainer son revolver, là, tu vois, genre. Et donc, la voix, c'est difficile.
Oui, je sais, mais il y a plusieurs dessus. Choses. Il y a au niveau, bon, ça c'est vraiment le côté numérique, le rajeunissement, je trouve, marche bien, la voix un peu moins, et aussi autre chose qui m'a un peu dérangé, et je crois que c'est parce que les acteurs ont fait ce qu'ils ont pu, mais le fait que la caméra soit plantée au même endroit durant tout le film, donc rien à voir avec des effets numériques, hein, mais le fait que la caméra soit bloquée au même endroit durant tout le film, je crois, a dû bloquer aussi un petit peu les comédiens, et ça nous bloque aussi un peu nous, spectateurs. Donc voilà, on les a souvent, eux, en train de devoir faire l'action tout le temps au même endroit. Parfois, on a juste leur visage. Donc voilà, je trouve aussi que ça, c'était un peu bloquant pour les acteurs qui ont peut-être été un peu brimés dans leur liberté, j'ai l'impression.
Ouais.
Voilà.
Non, ça c'est clair.
Ça se ressent un petit peu aussi.
Est-ce qu'on recommande quand même ce Here, globalement?
Bah alors je dirais pour un petit dimanche soir au coin du feu, pour ceux qui ont un peu chez eux. Franchement, je trouve que ça fait plaisir par contre de retrouver Tom Hanks et Robin Wright, qui étaient donc les héros de Forrest Gump. Je trouve que ça fait quand même plaisir de les voir à l'écran. Moi j'aime bien, vu que je suis une personne nostalgique, j'aime bien aussi les films qui parlent du temps qui passe. Il y a un côté où moi personnellement ça me parle. Je suis une personne nostalgique, j'ai un peu peur du temps qui passe. Il y a un côté. Donc le film parle de ça de manière assez touchante. Voilà, donc on sent une sincérité un petit peu quand même de la part de Zemeckis, je trouve. Il a aussi l'âge qu'il a. Je trouve qu'il a eu envie de faire un film un peu sur le temps qui passe, un petit peu comme finalement Francis Ford Coppola.
Exactement, comme Tempus. C'est un peu le fil rouge de cet épisode, d'ailleurs, le temps. Le conclave, tu vois, les papes, par définition, ils ont le temps qui a passé, tu vois.
Bon, c'est vrai que c'est un peu le fil rouge. Je trouve que tout n'est pas à jeter, mais j'ai pas été vraiment. Il manquait de l'émotion pour moi.
Exactement. Vraiment pareil. Bon, mais en tout cas, on vous encourage quand même à aller le voir. À mon avis, il arrivera sur les plateformes à un moment donné. Donc, il y a peut-être d'autres choses à voir au cinéma sur grand écran que celui-là. C'est vrai, c'est peut-être un truc qu'on pourrait conclure sur ça. Comme le cadre est toujours le même, c'est peut-être pas super nécessaire de le voir sur grand écran.
Parce non, c'est vrai.
Je trouve que, voilà, là, pour le coup, c'est rare de dire ça. Je pense que le film ne gagne pas spécialement à être vu dans une énorme salle de cinéma, même au niveau du son. Il n'y a pas particulièrement quelque chose qui justifie un Dolby à 7.2 ou 7.1. Donc, voilà, peut-être attendez les plateformes, mais on vous recommande quand même ce Zemeckis. De toute façon, en général, Zemeckis, c'est quand même toujours une bonne idée d'aller voir ce qu'il fait.
C'est pas son meilleur, mais il peut se laisser regarder sans souci.
Bon, et bien, très bien. Et bien, dites-nous ce que vous avez pensé sur les réseaux sociaux de notre petite critique de Here, et si vous avez été convaincu par ce dernier Robert Zemeckis. Nous, on arrive à la fin de cet épisode, mais pas avant de vous parler rapidement de nos coups de cœur de la semaine.
Mon coup de cœur de la semaine, voire même du mois, voire peut-être même de l'année, c'est le film Flow, un film d'animation qui a été réalisé par Gintz Zilbalodis, qui est un film letto-franco-belge. C'est un film d'animation absolument sublime et innovant. Et le héros de ce film, c'est un chat solitaire qui doit en fait survivre dans un monde sauvage, monde dans lequel les humains semblent avoir disparu. Donc c'est marrant, on voit un petit peu des traces, on devine que les humains ont été là et on ne sait pas ce qu'il est advenu des humains. Alors au début du film, il y a des inondations et donc du coup, ce chat surmonter sa peur de l'eau et il va faire des rencontres, il va rencontrer d'autres animaux. Alors la force de ce film déjà, ce qui est génial, c'est que c'est sans dialogue. Forcément, il y a des bruitages, des bruits d'animaux, etc. Mais il n'y a pas une seule ligne de dialogue. Chaque image est d'une beauté et d'une puissance visuelle incroyable. L'autre point fort aussi, c'est que c'est une aventure imprévisible. On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas ce qui va se passer. On suit ce chat du début à la fin sans savoir ce qui va lui arriver. Ça questionne un petit peu notre futur parce qu'on est dans un monde sans humains, mais c'est pas du tout un monde qui est complètement lugubre. Justement, c'est très très lumineux, très solaire, c'est très beau. Visuellement, c'est vraiment un très très beau monde. Flow, c'est un voyage à la fois sensoriel, spirituel et immersif, parce qu'on ne quitte pas ce chat du début à la fin, et c'est surtout vraiment poétique. Il y a aussi un petit peu d'humour quand même, et des moments d'émotion, et je dirais que ce que le film un peu nous dit, il y a une espèce de jolie leçon sur le vivre ensemble. Donc ce chat va devoir un petit peu apprendre à surmonter sa peur de l'eau, mais aussi à devoir vivre avec d'autres animaux pour survivre un petit peu ensemble. Pour les fans de chats, je trouve que les bruitages sont très réalistes. Donc voilà, pour moi c'est mon petit coup de cœur, Flow, je vous le recommande, c'est un petit moment de cinéma magique. This morning a man was killed on the South Bank. Was I the reason he was murdered? Was I the target? You might have compromised yourself. And now it's time to go to work. Hello, darling. The fucking shotgun! Yes, it's all ahead on me. Eh bien moi, mon coup de cœur de la semaine, une fois n'est pas coutume, c'est une série. Alors je vous rassure, une mini-série, je n'ai toujours pas beaucoup plus de temps que ça de regarder 3 saisons ou 5 saisons ou 10 saisons d'une série. Donc mini-série Black Doves sur Netflix avec Keira Knightley et Ben Whishaw. 6 épisodes sur l'histoire d'une femme qui est un agent en double, donc complètement intégrée très 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 profondément sous cover. Donc elle est mariée, elle a des enfants, etc. Mais elle renseigne pour une compagnie privée dont on ne sait pas grand-chose, qui est ni bonne ni mauvaise d'ailleurs, on se demande un petit peu ce qui va se passer.
et c'est vraiment vraiment très très bien. Et pourtant on a l'impression d'avoir déjà vu ce genre de choses, hein, de séries sur des agents secrets déguisés sous cover, etc. Mais là, je sais pas, c'est parce que c'est à Londres, parce qu'ils ont des accents mais britanniques mais absolument délicieux. Si tout est fait avec une certaine classe et une certaine, t'as l'impression qu'ils sont intouchables quelque part, alors qu'il leur arrive des trucs mais à l'appel, quoi. Il y a des journées, maman elle revient faire des bisous à ses enfants, elle a pris deux explosions, elle a failli se faire tuer trois fois et elle a cassé la tête à 15 types. Tu te dis bon bah super maman quoi, et c'est super 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 bien. Vraiment je vous recommande cette série Black Doves sur Netflix. C'est pas toujours le cas qu'on a une très très bonne série Netflix, franchement là c'est du pain béni, voilà, pour faire la boucle avec le pape et la fumée blanche, c'est du pain béni cette série, et en tout cas je vous recommande ça très chaleureusement, c'est sur Netflix. Eh bien, c'est tout pour nous. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour cet épisode dernier de l'année, hein, du coup, de Ce n'est que du cinéma. Nous, on va se retrouver en janvier en pleine forme avec toute l'équipe. Merci encore, Jess, d'être venu faire cet épisode avec nous. On espère que ça vous a plu. Et puis, ben, nous, on vous souhaite de très, très belles fêtes.
Mais oui, de très belles fêtes à tous. Salut, Martin. Merci
et
beaucoup.
Et que tout aille bien. Et on se retrouve en pleine forme en janvier. À ciao, ciao, les copains.
Ciao.
1, 2, 3. Yippee, yay.
There's still so much to accomplish, but is there time?